Accueillons à présent notre invité du jour, Normalien, École Normale Sup, professeur agrégé de chimie, 33 ans d'exercice au lycée Comte-de-Foix, professeur physique-chimie, actuellement à la retraite depuis 2 ans. Il a reçu les palmes académiques, passionné par son métier. Il a construit son site web, on en parlera plus tard avec lui. Il est aussi pédagogue et s'est toujours intéressé aux pratiques d'enseignement et n'a cessé de s'interroger sur la question de la transmission des savoirs. Dans sa conférence « La couleur de l'orange », il nous a invités à nous poser des questions sur les choses les plus simples. Il nous a amenés au bord du précipice de la physique quantique sans nous y précipiter, sans nous y faire tomber. C'est un bon vulgarisateur comme on les aime. C'est pour ça qu'on tenait à l'avoir aujourd'hui avec nous. Jean-Claude Marot, bonjour et soyez le bienvenu.
Merci, merci. Je voulais remercier l'Alliance pour avoir permis l'organisation de cette conférence. Et je suis prêt à répondre à vos questions, bien sûr.
Ben oui, non, mais c'est pas un tribunal, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'est vrai que le jour de cette conférence, qui était donc début novembre, le 5 ou le 6, et on a senti que vous étiez un peu comme chez vous, en famille, tout se passait bien, votre public
oui,
était conquis d'avance.
Tout à fait, non, mais le public était tout à fait décontracté aussi et tranquille. Enfin, je me sentais tout à fait chez moi, oui, tout à fait. Comme en classe, je vais dire. Voilà.
Alors la classe, justement, vous avez passé plus de 3 décennies dans l'enseignement. Ça ne vous manque pas trop ?
En effet. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne me manquent pas du tout. Par exemple, la correction des copies. Oui. Ça, je peux l'avouer. Mais c'est vrai que le contact avec les élèves me manque, oui. C'est vrai. Avec les ados, avec les lycéens en particulier.
Justement, ces élèves, au début de votre carrière professionnelle et quand vous êtes retiré il y a à peu près 2 ans, donc, est-ce que vous avez senti que les élèves avaient changé ? Puisque souvent, les gens se plaignent que le métier d'enseignant maintenant est différent, c'est plus dur, les élèves sont plus compliqués, sont plus précoces.
C'est quelque chose qui circule comme idée, qui est très répandue, en particulier dans le milieu enseignant. Alors, j'ai une expérience un peu particulière, parce que c'est vrai qu'en Andorre, la situation est, je pense, plutôt favorable. Je pense en particulier aux répondants des élèves et à leur attitude. Il est probable que dans d'autres lieux, ce soit un peu plus difficile, c'est vrai. Et peut-être plus difficile maintenant. Mais je n'ai pas senti, dans ces 30 années... je n'ai pas senti d'évolution négative. Il est vrai que j'avais un public d'élèves...
Vous étiez autoritaire ?
Non. Non. Enfin, pas autoritaire au sens de crier ou de...
Taper sur les doigts avec la règle.
Pas du tout. Fait. Non, pas du tout. Bon, je pense que ça se faisait naturellement, quoi. Enfin, dans une entente cordiale, on va dire. Un échange, quoi, un échange. Et c'est vrai qu'avec, comme je vous disais, j'avais des élèves qui, en section scientifique, sont quand même assez intéressés par ce qu'on fait, forcément. Mais j'avais aussi des élèves de section littéraire ou économique, et ça fonctionnait pas mal, je dois dire.
Alors, pour en revenir à la conférence organisée par l'Alliance française, on remercie Nathalie Sora aussi, qui vous avait fait une belle présentation.
Oui, oui. Merci à elle.
Alors donc, vous êtes venu tout coloré aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à propos, mais la couleur orange était à la une de votre conférence, qui s'appelait « La couleur de l'orange », et qui justement nous a mené à nous poser des questions sur ce que l'on voit, la perception, et donc la couleur de l'orange, le fruit, n'est peut-être pas forcément orange de forme empirique.
Oui, alors ce qui est intéressant, ce thème m'intéresse bien, parce que c'est assez représentatif de l'élaboration scientifique. C'est-à-dire, on commence par se questionner sur des évidences. Je prendrai un autre exemple que tout le monde connaît bien, c'est le soleil se lève et se couche, donc il tourne. Et on sait bien qu'il faut un effort de construction pour mettre en question cette évidence. Il faut voir les choses autrement, il faut les regarder autrement. Et donc, dans le cas de la couleur, c'est particulièrement patent parce que on a bien dans l'idée généralement répandue que la couleur de l'orange, c'est une propriété de l'orange, alors que ce n'est pas une propriété de l'orange. C'est le résultat d'un processus qui nous amène de la source de lumière jusque notre cortex cérébral, et c'est dans le cortex cérébral que se fait, que se réalise la perception de l'orange, pas avant.
Vous devez avoir le cortex solide, parce que pendant la conférence, vous n'arrêtez pas de vous taper derrière la tête.
Oui, oui, non, c'est, ça se passe là, là, là. Ça se passe là.
Ça se passe là, oui.
Enfin, ça se passe dans la rétine, mais la rétine est un prolongement du cerveau. Donc, la réalisation de la perception colorée se fait dans le cerveau, on va dire, pour simplifier. Hein, mais... Avant, c'est de la lumière. C'est de la lumière qui transporte... de l'information, et voilà. Mais la couleur n'existe pas, l'orange n'est pas coloré. Si je ne la regarde pas, elle n'est pas colorée.
Et si elle n'est pas mûre, encore, elle n'est pas couleur orange.
Non plus.
Donc c'est un peu ce que vous...
C'est ce que j'ai essayé d'expliquer.
Enfin, voilà, vous nous avez amené... Au départ, c'était des bases assez scientifiques, mais qui nous permettaient d'avoir justement ces bases pour mieux comprendre votre développement et arriver jusqu'à la fin de votre démarche.
Et en même temps, la question de la lumière, comme je l'ai évoqué, c'est une des questions cruciales de la physique.
Qui n'est toujours pas résolue, finalement.
Qui est modélisée, de façon assez correcte, ça marche. Pour l'instant, ça marche. C'est-à-dire, la physique fonctionne comme ça. La physique, c'est pas la réalité des choses, c'est notre modélisation du réel. Et on modélise, on bricole, on fait comme on peut. Donc, dans le cas de la lumière en particulier, on est confronté à cette double représentation. C'est à la fois de l'onde et de la particule, parce qu'on n'a pas d'autres images mentales à notre disposition.
Donc, en ce qui concerne la vitesse de la lumière, elle est toujours stable.
Elle est invariante. Alors ça, c'est encore un autre problème. Ouais. Mais là aussi, comment ça s'est passé ? On cherche... à déterminer la vitesse de la lumière et à voir si elle varie en fonction du référentiel, on dit, c'est-à-dire de la personne qui observe. Et l'expérience est négative, c'est-à-dire la vitesse est constante absolument, quel que soit l'observateur, qu'il soit en mouvement ou pas.
Oui, parce que vous nous parliez d'une personne qui est en mouvement dans un train et qui est regardée depuis une personne qui est à l'extérieur du train.
Les vitesses se cumulent, bien entendu.
Alors que dans ce cas-là, ça...
Dans ce cas-là, non. Alors, énigme totale. Ah. Énigme totale. Que fait le physicien ? Il ne va pas se dire... il peut se dire, peut-être je me suis trompé quelque part ou j'ai mal expérimenté. Donc on refait l'expérience, on recommence de maintes fois. Puis devant l'échec expérimental, on se dit, mes théories sont fausses. Mes représentations sont fausses, donc il faut en changer. Donc on change de modèle, voilà, c'est tout. Hein. Enfin, on change de modèle, c'est pas forcément facile. Parce que dans le cas présent, c'est de la mathématique, quoi. Donc il faut élaborer un système mathématique qui marche. Et on l'a fait. Lorentz l'a fait, Einstein l'a repris, et Einstein l'a englobé dans... Une vision du monde un peu plus large, on va dire. Mais les équations existaient avant Einstein, puisqu'on était obligé de les mettre en place. Donc c'est par obligation, en quelque sorte, par rectification des connaissances antérieures. Mais la physique, elle fonctionne comme ça depuis le début.
Donc la physique, la chimie, qui ont été au cœur de vos travaux et de votre carrière d'enseignant, est-ce que c'est quelque chose qui est en permanente évolution ou il y a eu des périodes où c'était plus creux, disons, que d'autres? Parce qu'on voit qu'Einstein, la même année, il fait deux découvertes fondamentales la même année, alors que peut-être 10 ans auparavant, il ne se passait rien.
Effectivement, il y a des, comme on dit, des changements de paradigme à certains moments, changements de vision du monde qui sont datés. Puis il y a des périodes de calme où, effectivement, le modèle fonctionne, le modèle est... paraît cohérent.
Il y a des cycles, ça. Alors, comme dans tout.
Oui, si on veut, des sortes de... Enfin, des cycles. Il y a des périodes de... Et on parle du mot... Enfin, on utilise le mot paradigme, qui veut dire contexte des idées, quoi. Enfin, mais il est vrai que pour changer de paradigme et passer de la mécanique dite classique de Newton à celle d'Einstein, c'est un petit effort, quoi. Et un effort surtout dans le développement mathématique. Puis aussi dans la conception des choses. Enfin, parce que la relativité, ça va encore plus loin que ça. Ça veut dire que quand je regarde un objet en mouvement, j'ai l'impression que son temps, à lui, n'est pas le même que le mien. Donc ça perturbe un peu dans les neurones, quoi. C'est un peu, un peu difficile à saisir. Mécanique quantique, c'est pareil. C'est un univers différent. C'est-à-dire nos pensées usuelles, nos images mentales usuelles ne permettent pas d'y accéder directement parce qu'on n'a pas les images correspondantes. Comment un objet peut-il être en même temps une particule, c'est-à-dire quelque chose de localisé, qui est en mouvement éventuellement, et en même temps une onde, c'est-à-dire une répartition spatiale. C'est très bizarre, quoi.
Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, la modélisation mathématique est essentielle pour la compréhension.
Il n'y a que la modélisation mathématique qui permet...
Parce que là, dans ton cortex, on a des blocages. Alors, qui sont quoi ? Culturels, biologiques
Je prendrai un autre exemple. Pendant tout le Moyen-Âge jusqu'à Galilée, on va dire, il était impensable de considérer que la Terre était en mouvement.
Ils étaient de l'hérésie après.
Après, il y a des dimensions religieuses, mais même sans parler de ça. Ouais. L'idée que la Terre est en mouvement, c'est quelque chose qui ne peut pas être considéré par la majorité des gens.
Déjà, le fait que la Terre soit ronde aussi.
Qu'elle soit ronde, on le savait depuis les Grecs. Après, les Grecs le savaient déjà. En mouvement, vous vous rendez compte de l'effort conceptuel qu'il faut faire pour arriver à penser ça. Mais nous, on l'a bien admis. On a cette image-là. Maintenant, on l'a. Peut-être que dans 50 ans ou 100 ans, où les futurs élèves auront appris ces choses-là et auront les images mentales qui permettent de visualiser, entre guillemets, la chose. Enfin, je ne sais pas, mais...
Alors, vous nous parliez aussi de notre vision, nous occidentaux, de l'arc-en-ciel, justement, au niveau des couleurs, qui est tributaire aussi de notre culture.
Absolument. Oui, oui.
Et aussi de notre appareil perceptif.
Oui, oui. Il y a pas mal de langues où le vert et le bleu sont confondus dans le vocabulaire. Mais ça, je pense que la prochaine conférence qui va porter sur ce terrain-là permettra d'éclairer un peu plus. Parce que là, moi, je n'ai pas de compétences dans ce domaine, bien entendu. Mais... Voilà.
Alors, nous qui sommes, comme vous le disiez, des humains trichromatiques, en cela, nous sommes inférieurs aux pigeons. Tout de même, j'ai découvert ça. Le pigeon
pentachromatique.
Pentachromatique, donc qui est deux fois supérieur à nous. Presque.
Cinq types de cônes, donc une vision de nuances colorées beaucoup plus grande que la nôtre. Ça, c'est hasard et nécessité. Enfin bon, c'est voilà quoi. Mais il y a pas mal d'oiseaux qui sont tétrachromates, des insectes aussi.
Ouais.
Et beaucoup de mammifères, par contre, qui sont dichromates. Le chat. Mais le chat n'a pas besoin de voir en couleur. Ce qui l'intéresse, c'est le mouvement. Donc, bon. Voilà.
Donc, en tout cas, ça nous remet aussi en perspective cette modestie que nous devons avoir parce que l'être humain, des fois,
il se pense au-dessus, oui, au-dessus, bien sûr. Mais
se pense un peu au-dessus de tout. Et même dans le cas des fourmis, ça avait été démontré que si les fourmis avaient la taille de l'homme, ça serait les maîtres du monde.
C'est pas impossible, oui. Ça peut se faire. Je crois qu'il y a eu des écrits là-dessus, oui.
Donc, par rapport aux pigeons, nous sommes daltoniens.
Oui.
C'est bien ça.
Très daltonien.
Tu vois, nous ne recoulons pas devant les pigeons. Oui, Thierry qui imite le pigeon cabine. C'est difficile à imaginer conceptuellement.
Alors là, ça devient de la biologie. Hein, donc je suis bien moins à l'aise pour parler de ces structures-là. Hein, mais bon.
Alors justement, si nous passons pas à la biologie, mais à la chimie, par rapport aux couleurs qui sont... Donc, c'est une combinaison de pigments.
Oui, pour les couleurs que nous percevons. Oui.
Que nous percevons. Donc, on a vu que si certains ne perçoivent pas toutes ces couleurs, c'est pour ça qu'il y a des cas de... Il y a trois cas différents de
daltonisme. Il y a trois types de daltonisme. Un pour chaque cône récepteur. Enfin bon. Après, ça peut être plus... C'est bien sûr plus compliqué.
Après,
sur les colorants, alors il y a... les molécules peuvent absorber dans différents domaines, en ultraviolet, en infrarouge et aussi dans le visible. Alors, pour pouvoir absorber les photons du visible, mais ça, on l'apprend en première scientifique, hein. Il faut des molécules qui ont des structures suffisamment complexes, hein, ouais. pour que les électrons là-dedans soient capables d'absorber les photons correspondants.
Et alors justement, vous nous preniez l'exemple des artistes, des peintres, qui depuis fort longtemps avaient bien compris que certaines couleurs, le mélange des couleurs, l'importance, les effets que ça pouvait provoquer.
Oui, alors effectivement, il y a une autre dimension, mais là aussi je suis moins à l'aise pour en parler, parce que c'est de la physiologie et c'est le fonctionnement aussi neurologique, c'est-à-dire la proximité de couleurs fait qu'on va voir différemment les teintes colorées. Ça, c'est encore une autre dimension, mais qui est encore une fois liée à notre système perceptif, pas aux colorants qui sont là-dedans. Moi, mon truc, c'est plutôt les... Vous voyez, la partie avant l'œil, quoi.
Ouais. Voilà.
Enfin, avant la rétine, on va dire.
Et un thème d'actualité qui m'a fait penser à vous, justement, j'en entendais parler ces jours-ci. Alors, on parlait du bleu, du rose, les garçons, enfin, le genre où certains parents étaient un peu contre, justement, le fait d'associer. Alors, j'ai découvert qu'en fait, il y a un siècle, c'était l'inverse.
C'est l'inverse.
Alors, parce que la couleur rose était plutôt attribuée aux garçons, parce que c'était à la limite un dérivé du rouge qui était un peu plus viril, un peu plus guerrier.
Le rouge était...
Et le bleu était associé aux filles. Donc, il y a eu ce changement de tendance d'association des couleurs par rapport au genre. Et maintenant, on en arrive à quelque chose de plus neutre, où beaucoup de parents revendiquent
le fait que
les garçons puissent s'habiller en rose. Ou...
Il y a une évolution culturelle de ce point de vue-là. Mais effectivement, la question des couleurs est porteuse de symbolique, de représentation, bien sûr. Mais je ne peux pas aller plus loin parce que je risque de raconter des bêtises sur le plan culturel.
Bon, vous êtes plus à l'aise sur la lumière, le rayonnement électromagnétique.
Absolument, bien sûr.
Alors, quand on voit l'importance d'entreprises multinationales comme Google, qui eux utilisent nos réactions et nos clics par rapport à la... Bon, c'est l'importance de l'image, en fait, des écrans qui sont partout et qui utilisent tout ça à l'insu de notre plein gré, plus ou moins, pour faire de l'argent.
Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Je suis tombé, en préparant la conférence, sur des articles sur, justement, l'utilisation bien organisée, bien raisonnée des couleurs, dans les pubs, dans tout ça, pour avoir un effet. Il y a des études extrêmement intéressantes là-dessus. Alors, après, c'est toujours pareil. On a des moyens d'investigation et des moyens de compréhension. Toute la question est, qu'est-ce qu'on en fait du point de vue éthique? Voilà.
Donc, la pub agit depuis longtemps de forme quasi subliminale sur nous.
Absolument. Et apparemment, le choix des couleurs, l'organisation des couleurs ont un rôle particulièrement important.
Donc, c'est quoi les couleurs les plus vendeuses?
Je n'ai pas creusé la question. Ça dépend de ce qu'on vend, semble-t-il. Hein. C'est très, très ciblé, très... Ouais.
Bon, enfin, vous, on a compris, vous n'êtes pas un commerçant. Vous avez développé un site jcmarotte.com.
Il est gratuit.
Où justement, vous proposez tout un tas de matériel pédagogique à l'usage ou des enseignants ou même des
enseignants,
à partir de la seconde.
Oui, pour moi, il y a des choses qui sont utilisables au collège. C'est-à-dire, j'ai mis là-dedans... Bon, je n'ai pas terminé, je vais compléter.
Oui, parce qu'on a l'impression que c'est un peu un fourre-tout, mais j'imagine que vous avez votre organisation ou non
Non, c'est des thèmes, c'est par thème.
Oui, parce que les thèmes, c'est assez surprenant.
C'est très varié. Hein,
c'est en fonction de l'humeur du chef
ou... Non, c'est... comme j'ai enseigné à différents niveaux, j'ai enseigné au collège et au lycée sur différents thèmes, donc j'ai essayé de reprendre les types de travaux que j'avais mis en place, quoi. Avec une idée directrice quand même, tant que faire se peut, c'est que le savoir se construit.
Oui.
Le savoir ne se transmet pas tel quel d'une tête à une autre, du prof à l'élève. C'est-à-dire, si l'élève ne le construit pas, il ne se passe rien.
C'est pour ça que le sous-titre du site s'appelle « Chantier de science ».
Chantier de science,
il y a l'esprit de construction
absolument.
Tout au long de la vie, finalement.
Oui. Donc, les démarches, comme je dis, que je propose, sont des mises en situation des personnes, donc des élèves ou éventuellement des adultes, mises en situation pour construire, alors à la fois individuellement, mais aussi collectivement, leur savoir. Vous voyez, à partir de documents, à partir de situations, à partir de problématiques. Enfin bon. Donc l'idée de construction.
Et pour terminer, Jean-Claude Marot, l'idée de la sérendipité, qui est un terme un peu... C'est un anglicisme, bon, qui a été traduit quand même en français. par rapport au fait que certaines trouvailles scientifiques ou inventions ont été faites par le fait du hasard. En cherchant quelque chose, on a trouvé autre chose. Donc c'était le cas de la pénicilline, du micro-ondes, de l'aspartame, du Viagra.
Par accident.
Par accident.
Mais en fait, l'accident, je suis dubitatif sur l'accident. C'est-à-dire que pour c'est une question de regard.
Ou Christophe Colomb qui cherchait les Indes, qui découvre les Amériques.
Voilà, bon. C'était... Mais il avait truqué les cartes en plus.
Ah bon ?
Si, si, oui. Il avait raccourci les... Ouais. Enfin bon, non, ce que je veux dire, c'est que...
Vous avez une vision plus quantique, vous.
Si on veut, ouais.
Les choses entraînent les choses.
Oui, non, mais je pense que l'accident, en fait, c'est pas vraiment un accident. C'est-à-dire, la personne qui va tomber là-dessus, c'est parce qu'il a, une certaine façon de regarder. Donc, c'est pas totalement par hasard. C'est-à-dire, la manip qui a pas marché, bon... Il se dit, tiens, il y a un truc là. Il y a un truc.
Il y a un truc. En tout cas, on invite tous nos auditeurs à rester inquiets, à aller chercher et à visiter surtout votre site qui est passionnant, jcmaro.com.
Oui. Bon, il y a des choses un peu techniques, mais il y en a qui sont tout à fait abordables.
Voilà, il y en a pour tout le monde. Oui. Jean-Claude Maro, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on termine, votre choix musical.
Mon choix musical, c'est Bernard Lavilliers, Main d'or.
Main d'or. Merci beaucoup. Bonne retraite et restez actifs.
Hein. Merci beaucoup.
Ne changez rien. Voilà, c'en est fini de votre rendez-vous de l'Alliance de cette semaine. Je vous rappelle que cette émission, comme toutes les précédentes d'ailleurs, sont podcastables et donc disponibles en balado-diffusion sur le site internet andoradiffusion.ad à la rubrique programme, puis les rendez-vous de l'Alliance. Merci Thierry et à la semaine prochaine.
Bouffé par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Travailler au corps, acier rouge.